France 3 Nord-Pas-de-Calais, Tribune Nord. Toute l'actualité foot. Sylvain Charlet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Tribune Nord, on est ensemble jusqu'à 20h. Je vais accueillir mes différents invités, mes experts autour de la table dès maintenant, avant de vous redonner le programme. Mathieu Rapès pour France 3 est là, salut Mathieu.
Salut Sylvain, salut à tous.
Vous avez organisé comment votre journée hier? Vous avez voté le matin, vous êtes allé au stade l'après-midi?
J'ai regardé à la télé, mais j'ai voté le matin, et puis petit après-midi, vélo, foot, ouais. La Formule 1 aussi.
À 7h, vous avez commencé
tôt? Non, je l'ai enregistré, j'ai regardé au petit-déj, tout était calibré à la seconde.
Ah, belle journée.
Ouais.
Cédric Van Goten, notre agent de joueur, est là également. Bonsoir Cédric.
Bonsoir à toutes et à tous.
Vous avez bien voté comme vous avez bien joué?
J'ai bien voté. Après les résultats,
vous avez gagné.
Mais je me suis fait un peu surprendre. J'ai raté le début du match du Lens parce que je pensais qu'il y aurait moins de monde au bureau de vote.
Ah oui?
J'y suis allé entre les deux matchs en disant que ce serait une formalité. Il y avait un peu plus de monde que je ne le pensais à cette heure-là.
Ah, parce que vous aviez peu de temps entre les deux matchs. Il y avait quoi? Il y avait 10 minutes?
Ça va, c'est juste de la rue de la maison. Donc,
Vous habitez dans le bureau de vote, en fait?
Pratiquement, ouais.
C'est organisé chez vous. Et j'accueille un débutant en Tribune Nord, mais habitué déjà de France Bleu Nord, Stéphane Bigère. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Alors, vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, consultant en management et en communication.
Oui, c'est ça.
Ça va être intéressant de vous entendre sur le sujet Olivier Létang tout à l'heure, puisqu'on a un président silencieux pour l'instant. Mais vous êtes aussi et surtout, l'auteur de L'ombre à la lumière du Nord, préfacé par Gervais Martel aux éditions Jet d'encre. C'est un livre qui retrace l'histoire des charbons ardents. C'est le nom un peu décalé du Racing Club de Lens, c'est-à-dire que c'est la réalité mais romancée. C'est un peu l'idée, on développera tout à l'heure. Mais
c'est exactement ça.
Voilà.
Ça existe, mais ça n'existe pas.
Voilà, et donc vous racontez un petit peu les coulisses du titre de 98, parce que vous étiez un intime, vous étiez tout le temps avec Daniel Leclerc.
Ah, j'étais plus qu'un intime, j'ai été immergé pendant presque un an dans cette aventure-là.
Il s'appelle comment dans le livre, Daniel Leclerc?
Denis Linek.
Et il s'appelle aussi le druide.
Le druide, oui.
Exactement.
On a changé un petit peu les noms. Ouais.
Et on racontera tout à l'heure pendant l'émission cette première rencontre avec Daniel Leclerc. Parce que Daniel, il avait l'art d'être,
froid.
Et impressionnant.
On peut dire ça. Le premier, pour ceux qui l'ont connu, la première rencontre, c'est toujours marquant.
Alors, on va revenir forcément là-dessus, puis on fera forcément des références tout au long du récit au livre. Ce soir, on va revenir sur le sommaire de l'émission. La magnifique journée donc hier du Racing Club de Lens, cette victoire 3-0. La période un peu compliquée pour le LOSC et les tensions avec le dossier à Tem Ben Arfa. On n'a toujours pas entendu Olivier Létang. Comprenez-vous son silence alors que Gourvennec se retrouve seul en première ligne? Et le LOSC qui sera également à la une de notre revue du net, puisque Youssouf Yazidche brille au CSKA Moscou. Il marque que but sur but, on en parlera tout à l'heure, et puis on parlera également du derby, puisqu'on est inquiet. De nombreux supporters lensois seront disséminés dans le stade incognito, pas de parkage, a priori pas forcément la meilleure des décisions. Là aussi on va en débattre, et puis on reviendra aussi sur les deux défaites de nos clubs en Ligue 2, Valenciennes et Dunkerque.
Tribune Nord, toute l'actualité des 100 et or, en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais.
Et on va d'abord revenir sur la très belle après-midi du Racing Club de Lens. C'était hier, Lens s'est imposé 3-0 face à Nice, et sur France Bleu Nord, c'était ainsi.
Ce décalage pour Pereira da Costa sur son pied droit. Il trouve Jacques Doucouré qui contrôle, qui lui redonne. Allez Pereira da Costa, le centre en retrait. Il y a de l'histoire, la première minute. Oui, Cali. Oui, Cali. Tu es là. Tu es de retour. Jacques Doucouré qui va envelopper. Oui, deuxième.
C'était incroyable. Et puis après, comment vous voulez ne pas vous transcender quand vous jouez devant une telle passion, une telle ferveur, des gens qui sont en tribune et qui vous transmettent ce qu'ils ont dans les tripes, tout simplement. Ça donne des belles soirées comme ce soir.
Doucouré qui lance Cali Mwendo dans le temps de la défense. Cali qui dribble, Cali qui marque 3-0 à la 67e.
Oui, Cédric Van Goten, oui, j'ai perdu la tête. Oui.
Et puis que vous avez vu
depuis
Lucette.
Ah non, les références. On va perdre tous nos jeunes auditeurs.
Oh bah.
Aussi une bonne référence. Bon oui, c'était un match complètement dingue. Voilà, on a perdu la tête. Vous entendez, il y avait derrière moi des supporters.
C'est fou,
mais en fait, normalement, en tribune de presse, les supporters sont juste un peu à l'écart. Enfin, ils sont à 5 mètres. Là, ils étaient collés à nous. Complètement dingue, Cédric.
Non, fou. Mais ça fait du bien parce que ça, semblant de rien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Lens de cette qualité-là. Je pense que depuis, on va se le dire, depuis novembre, décembre, on n'avait peut-être pas vu un Lens de cette qualité-là. Donc, ça fait effectivement plaisir.
Ouais, il y a ce souvenir du match face au Paris Saint-Germain où il y a un partout, Stéphane. Mais c'est vrai que là, hier, le scénario est complètement dingue. Parce que le scénario, vous auriez voulu l'imaginer dans votre roman De l'ombre à la lumière du Nord.
On en a eu quelques années comme ça. De scénario un peu dingue. Mais là, ce qui a été extraordinaire, je trouve que c'est toujours dans le sport. C'est ça, c'est les émotions qui sont incalculables à partir du moment où tu as un retournement de situation. Parce que moi, je me souviens, j'ai regardé le début, je zappais sur deux sports. Et puis je dis, bon, bah, au départ, bon, merde, 10 minutes, carton rouge.
17e Aïdara.
Ça va être compliqué, quoi, les gars, sur Nice, machin, qui font une super belle saison. Bon, puis d'un seul coup, bah non. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà, puis il n'y a plus rien qui contrôlait, on ne sait plus. C'est...
Mathieu ?
Oui, il y a des matchs dans une saison dont on se souvient, et celui-là, on s'en souviendra pendant 10, 15, 20 ans.
Ouais. Est-ce que c'est le plus fou ? Est-ce que c'est le plus fou de la saison lensoise ?
Je pense quand même, vu le scénario, en tout cas le retournement, il est incroyable. Et la probabilité finalement de gagner à 3-0 quand on regarde le début du match, elle est quasiment nulle. Et avec ça, il y a la manière, il y a le public, et au-delà de ça, il y avait des points nécessaires à prendre.
Mais et puis surtout peut-être dans un contexte où il y avait 2-3 matchs là, où on les sentait un peu moins en vie, un peu moins dynamique. Et là, d'un seul coup, pouf, on retrouve Champagne, quoi.
Tiens, on va accueillir Laurent, supporter lensois, qui était peut-être au stade hier. Salut, Laurent.
Bonsoir, Julien.
Bon, au stade hier ?
Non, j'ai pas pu y aller.
Alors, comment vous l'avez vécu, ce match de dingue ?
Ouais, c'est vraiment super, parce que bon, c'est pour ce genre de match, hein, de toute façon, que les footballeurs, ils font ce métier-là. C'est beaucoup d'émotions, parce que c'était un début de match quand même très très compliqué, et puis au final c'est vraiment une belle fête, quoi. Donc j'avais des copains sur place et voilà, ils m'ont raconté.
Puis c'est vrai qu'il y a cette communion. Moi personnellement, à la fin du match, on était à l'antenne et on avait pas envie de partir, en fait, Mathieu.
Ça arrivait déjà, je crois que c'était le 8e guichet fermé de la saison, ou en tout cas un des nombreux guichets fermés, et à chaque fin de match, on a quand même cette saison le public qui reste, qui chante une célèbre chanson, on les a chicotés. Et là, il y avait un truc en plus cette fois-ci, mais c'est une habitude cette saison. Le public était en demande, et là, il a été vraiment servi côté émotion.
Rebondir sur ce que tu dis là, par rapport à l'ambiance qu'il peut y avoir, ce qui est quand même nouveau cette année, je crois que ça n'existait pas les années précédentes et même pas il y a 20 ans, c'est l'ambiance qu'il y a derrière les tribunes après match.
C'est-à-dire
parce que quand ils se mettent, si vous regardez sur les réseaux sociaux maintenant, il y a quelques vidéos qui tournent, où d'un seul coup, ils se retrouvent à 100, 200, 300, 400 à chanter.
Mais déjà, la fin de match,
on a
sur
chicoté,
le terrain,
à chanter, à chanter, mais derrière, en faisant des bandes comme au carnaval, quoi. Et ça n'existait pas, parce que ça se fait sous les tribunes. Et ça, je trouve ça extraordinaire de partage.
Laurent ?
Oui ?
Fier donc de vivre ces moments-là. Après, on sait pas où ça mènera le Racing Club de Lens, parce que on le dit, après une victoire on parle de l'Europe, après une défaite on se dit c'est mort pour l'Europe. Donc voilà, faut profiter de chaque instant, en fait, et on verra match après match pour une fois qu'on est d'accord avec les joueurs et les entraîneurs.
Oui, non, mais c'est absolument ça. Puis rien que le fait d'avoir fait vivre ce genre de match aux supporters, c'est déjà une réussite. Alors après, oui, s'il y a d'autres victoires derrière, c'est pour moi du bonus. Mais voilà, rien que déjà de leur faire vivre ça après les années difficiles qu'on a eues, oui, c'est super plaisant.
Allez, maintenant, on va revenir sur ce fait de match de la 17e minute, parce que forcément, on a envie de reparler de l'arbitrage. Rémi Serpeau, pour tout vous dire, pour vous raconter les coulisses de l'émission, notre arbitre devait être avec nous ce soir en studio, mais il a eu un petit empêchement de dernière minute. Peut-être qu'il réussira à être au téléphone avec nous dans les prochaines minutes, mais on voulait donc revenir sur cette 17e minute. Aïdara vient au contact avec Attal. Les deux mettent énormément d'engagement et Aïdara touche le genou d'Attal, a priori involontairement, et il est exclu par monsieur Delageau, l'arbitre de la rencontre. Écoutez ce que pensait l'intéressé Massadio Aïdara en conférence de presse d'après match.
J'ai pu le toucher, ça je ne nie pas, mais je touche le ballon en premier et c'est lui en glissant qui vient me percuter. Donc de mon point de vue, c'est plus lui qui fait faute que moi, quoi.
Bon, autour de la table, on va se poser pour parler du règlement. Cédric Van Gotten, est-ce que vous trouvez la décision de M. Delajoie sévère?
C'est compliqué. Quand on voit les images, on voit qu'Aïdara jette un coup d'œil pour savoir où il peut relancer. Mm-hmm. Du coup, il perd un peu le fil du ballon. Et il met trop d'engagement pour essayer de le récupérer et il emmène tout avec. Le Niçois met aussi beaucoup d'engagement, donc c'est spectaculaire. Est-ce que ça vaut un rouge ? Compliqué. Un jaune, oui. Un rouge, compliqué. Je crois que l'arbitre aussi, ce qu'il a pas apprécié, c'est que Aïdara, au lieu de dire voilà, j'ai mis trop d'engagement, j'ai été un peu en retard, j'ai mis trop d'engagement, voilà, c'est ma faute. Il a aussi fait bah là, je suis blessé et tout, et peut-être que l'arbitre a peut-être pas apprécié non plus.
Les deux sont restés un peu au sol, oui.
Un rouge tout de suite. Voilà, c'est un fait de match, c'est un fait de jeu, comme on en a dans tous les matchs.
Mathieu Rapèze ?
J'ai vraiment pas l'habitude de dire du mal de l'arbitrage, mais pour moi, il y a faute sur Aïdara. Et d'ailleurs, j'ai re-regardé les images ce matin précisément, l'arbitre siffle pour Lens au tout début. Quand il siffle pour Lens. Il met son bras en direction du but niçois, donc comme quoi Lens pouvait repartir. Et on peut, arrêtons de jouer au foot. Si on peut plus dégager un ballon avec le risque de toucher un adversaire qui arrive plus que brusquement vers lui, arrêtons de jouer au foot. Franchement, ces règles, elles sont incompréhensibles. La vidéo qui valide ça, mais franchement, c'est incroyable.
On va revenir sur le point du règlement dans la foulée. Ça va encore agacer Mathieu, j'en suis sûr. Mais d'abord, la parole aussi à Stéphane.
Bah, moi, je crois que là, on est au cœur de ce qui fait la passion du foot aussi. Si je suis niçois, je dis c'est dégueulasse. Là, si
je ne sais pas si les Niçois. Est-ce qu'il y a un Niçois
non,
qui.
C'est des débats qu'on a eu mille fois sur n'importe et quel.
Le Lensois, il a le ballon.
Et comme ça
tire.
Se passe à 15 minutes, forcément, c'est de l'enjeu au départ. Enfin, bon. On peut refaire tous les matchs.
Mais est-ce qu'au moment où ça se passe, quelqu'un autour de la table pense que c'est Aïdara qui fait faute?
Oui, mais je pense pas qu'il y a rouge. Je pense qu'il y a jaune, mais je pense qu'Aïdara fait la faute.
En fait, on en a parlé d'ailleurs avec Rémi Serpo hier pendant le match, parce que on a joint notre arbitre, parce que c'est notre homme en noir qui officie en National 3. Il nous dit, en fait, c'est vrai que ça peut être sévère, ça peut être perçu comme sévère. Et d'ailleurs, ça met un peu le feu aux poudres après sur le terrain et dans les tribunes. Sauf qu'en fait, le problème d'Aïdara, et c'est contre sa volonté, c'est que son pied termine sur le genou d'Atal, en fait.
Parce qu'Atal arrive comme une bête.
Mais les deux vont au contact. Mais aujourd'hui, il y a un règlement qui dit que si vous touchez à l'intégrité de l'adversaire, il y a un carton rouge, en fait. On le voit avec des chevilles. Là, le souci, c'est que, c'est vrai que Mathieu, les deux y vont. Moi j'entends.
Dans l'esprit du jeu dont vous parliez la semaine dernière, on voit son regard, il veut relancer, il tire. Pour moi, il n'y a même pas de maladresse de sa part.
Mais c'est là où on voit encore une fois, c'est avec Van Gotten, c'est hyper compliqué à juger. Parce qu'en fait, il y a l'esprit, il y a le règlement. Est-ce que quelque part, finalement, les arbitres, dans ces cas-là, se cachent, entre guillemets, derrière le règlement? Rémi Serpo va m'en vouloir. Alors,
oui et non, parce que comme le dit Mathieu, peut-être qu'au début, l'arbitre siffle en faveur de Lens. Et après, je pense que
c'est la
VAR. Le juge de touche... Le juge de touche déjà doit intervenir. Ce qui fait changer sa décision. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les joueurs lensois vont sur le juge touche. Et c'est pour ça que Franck S prend un carton jaune, parce que je pense qu'il n'est pas d'accord avec l'intervention du juge de touche. Et après, il y a la VAR qui, de toute façon, Mathieu, la VAR, même si l'arbitre central s'était trompé, elle a validé. Et quand tu dis, je suis pas sûr que les lensois disent qu'ils sont pas contents, les niçois sont pas contents. Mais je pense qu'ils sont pas contents, parce qu'une fois de plus, on a vérifié que être à 11 contre 10, c'est pas forcément favorable. Ça les a peut-être désorganisés dès le départ du match.
Mathieu veut répondre?
Non, j'ai plus de commentaires. Moi, parfois, il y a débat sur certaines fautes. Là, vraiment, je vois pas.
Mais j'entends la notion d'esprit du jeu, en fait. Déjà, la semaine dernière, sur les mains dans la surface de réparation face à Strasbourg, on n'est pas dans l'esprit du jeu, on est dans le règlement.
Mais là, c'est encore pire, je trouve.
Le souci, moi, je me demande, si on était à la place de l'arbitre, si je joue ma place en Ligue 1, qu'est-ce que je fais, en fait? Je me risque à être dans l'esprit du jeu où j'applique le règlement?
Moi, je pense qu'il y a aussi un élément à intégrer, c'est que le jour où le football prendra un peu de maturité sur l'arbitrage, notamment les joueurs vis-à-vis du rugby, par exemple, peut-être que les arbitres seront un peu plus sereins dans leurs décisions. Pourquoi ? Parce que
les micros vont débarquer bientôt.
Non mais je sais pas, mais peu importe. Enfin, quand on regarde au rugby, les mecs ils font 3 mètres machin, ils arrivent sur l'arbitre, l'autre il lui dit un truc. Tout le monde se tait, tout le monde agit, et il est relativement serein dans ses décisions. Là, dès qu'il se passe quelque chose en football, t'en as 10 qui arrivent, ils font une faute, ils roulent 10 fois, ils font machin. Donc, le mec, quelque part, il est obligé de gérer une situation au-delà de ce qui vient de se passer, pour voir si ça va pas s'emballer, etc. Mais je trouve que là-dessus, on a le foot a vraiment matière à être un peu plus serein, quoi.
Ouais, mais là, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais le joueur et les joueurs sont obligés de contester après ça. Là,
mais
c'est tellement gros.
Mais non,
pourquoi t'es obligé? T'es pas obligé.
Mais il se taise. Vous sentez une injustice. Il y a une injustice.
Comme... Personne ne sait.
C'est 10 minutes dehors et terminé.
Je suis d'accord sur le fond, mais là, en l'état...
Eh ben non, justement. Les gens, ils apprendront à respecter l'arbitre. Peut-être que l'arbitre sera moins dur avec eux.
Dans un monde idéal, je suis pour ça. Mais là, sur les faits, là, on est sur Twitter ou même les gens devant leur télé, tout le monde était choqué.
Mais non, je suis pas d'accord, Mathieu, parce que ça veut dire que c'est celui qui va faire le plus intox auprès de l'arbitre qui finalement va avoir gagné.
Je suis pas pour les contestations, mais là, dans les faits, il y a injustice. On voit bien le regard, la surprise.
Le jour où on avancera, où il y aura la moindre contestation, c'est carton dehors.
Je suis d'accord. Mais appliquons la règle du rugby.
10 minutes dehors.
Mais je suis d'accord. Tu pars, c'est dehors. Au rugby, il n'y a que le capitaine qui peut discuter. Non pas contester, mais
discuter
avec l'arbitre. Non, puis après, on a fait le débat 50 000 fois. Mais il y a aussi le relationnel, le langage du corps. C'est vrai que l'arbitre, il a un petit côté autoritaire, paternaliste, en fait.
Ben, c'est clair.
Et donc, bon. Et qu'en pense Laurent, d'ailleurs, qui est toujours avec nous? Laurent, Aïdara, alors, je crois... Devinez ce que pense Laurent.
Non, c'est vrai que pour moi le rouge c'est sévère parce que il y a aucune mauvaise intention et alors c'est sûr que l'intention ça fait peut-être pas partie du règlement mais le rouge direct là-dessus c'est quand même vraiment hard. Un peu de pédagogie serait été à mon avis pas mal, un bon jaune et puis aller s'expliquer avec Aïdara en disant voilà là t'as déconné etc. Peut-être que lui, il aurait dit à un moment donné, oui, bon, voilà, c'est tout, et je me calme et ça redescend. Mais le rouge direct, pour un geste qui est peut-être effectivement engagé, je trouvais ça vraiment très, très sévère quand même.
Bon, merci Laurent d'être passé.
Je vous en prie.
À très bientôt dans Tribune Nord. Et dans les autres rendez-vous pendant les vacances, il n'y a pas 100% Club T. 100% Club T reviendra dans 2 semaines. Et ce week-end, on aura le derby dimanche soir. Match à commenter. Match à lire à partir de 10h. Le Lille lance à Pierre-Mauroy. On va y revenir dans quelques minutes. N'hésitez pas à nous appeler 03 20 55 89 89.
Tribune Nord. Toute l'actualité des 100 et or. En direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord Pas-de-Calais.
On va revenir quand même quelques minutes également sur les choix gagnants de Francaise et sur cet état d'esprit lançois, mais on va se focaliser un peu sur ce qu'a fait Francaise là aussi hier. Francaise qui a notamment permis à son équipe de tenir en passant 4-4-1 et puis à la mi-temps, il change son seul attaquant, Ganago contre Kalimuendo et en deuxième période, le coup de baguette magique fonctionne puisque Kalimuendo marque 2 buts et permet à son équipe de s'imposer 3-0. Bon, déjà, il a encore une fois été bon, Francaise. Je voulais vous poser la question un peu plus tard, Stéphane, par rapport au livre. Mais est-ce que c'est un peu le nouveau Daniel Leclerc, Francaise?
Alors, non seulement, je pense sincèrement que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le nouveau, mais en tout cas, il a exactement une philosophie qui s'en rapproche, mais de manière encore plus moderne, je trouve, parce qu'il est très attaché aux relations humaines. Je lui ai offert mon livre. Je sais qu'il est en train de le lire et je pense qu'il a vraiment cette sensibilité, pas simplement du sportif, mais de l'être, de l'homme. Et je trouve que dans ses choix, par exemple, il voit bien si le mec il est bon ou pas dans l'instant ou dans la période ou dans le moment et être capable de mettre certains sur le banc et pas d'autres, etc. à des moments clés. Ben je trouve qu'il est très très moderne et très cohérent pour ça.
Ce qui était intéressant dans vos échanges avec Daniel Leclerc à l'époque, parce que voilà, vous êtes un spécialiste du management et de la communication, c'est que vous disiez le souci de Daniel Leclerc, c'est qu'il était perfectionniste, donc il insistait sur les points qui ne fonctionnaient pas, mais il avait du mal à caresser de temps un petit peu les joueurs dans le sens du poil pour les mettre en confiance pour ensuite faire passer son message. J'ai l'impression que Francaise, ça, il l'a.
Exactement, c'est exactement ce que je dis. Daniel avait cette exigence qu'il faut au haut niveau, on ne peut pas l'avoir autrement, il n'y a pas un grand entraîneur qui n'est pas exigeant, ça ne marche pas. Mais par contre, sur quoi on la met la focale, quoi. Et Daniel la mettait, si tu avais fait un moindre passe, enfin, c'était une catastrophe. Moi je me souviens, au début, les joueurs ils sortent du terrain en pleurant à l'entraînement.
Il leur faisait peur.
Qu'il faisait peur, parce qu'il les taclait sur n'importe quoi. Et je sens, alors j'ai jamais encore assisté à un entraînement de Franck, mais vraiment je pense que déjà ça se sent dans l'énergie qui se passe, dans les causeries qu'il fait, dans les petits moments qu'on voit.
Ses conférences de presse, dans ses explications en conférence de presse.
Il est toujours à chercher à optimiser le potentiel de chacun au bon moment, au bon endroit.
Mathieu Rapèze.
Il a tout compris.
Je pense qu'il sait pousser une gueulante quand il faut aussi. C'est quelqu'un qui a du charisme.
Voilà. Et c'est important aussi de savoir le faire. Voilà. Parce que sinon, le groupe peut prendre le dessus sur l'autorité du coach.
Ouais, ah, ça, c'est un truc qui m'a toujours amusé. Ouais. Dans les entraînements, mais dans tous les sports. Vous, les journalistes, forcément, première mi-temps de merde. Deuxième mi-temps, d'un seul coup, l'équipe flambe. Là. Et le journaliste, qu'est-ce qu'ils ont dû prendre dans le vestiaire? Général, c'est pas vrai. Si c'est leur mettre une soufflante pour leur dire vous êtes nul à chier, c'est quoi ce bordel, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Par contre, s'ils leur mettent une soufflante en leur disant attendez les gars, vous savez faire ça, vous savez faire ça, vous savez faire ça, vous savez faire ça, vous faites pas, donc bougez-vous le cul sur ce que vous savez faire. Donc du coup, il va leur mettre une soufflante, mais pas pour les humilier, pour les réveiller sur des jeux, sur des tactiques, sur de... Et c'est vachement différent parce que c'est pas leur dire je leur en ai collé une et c'est pas ça qui réveille, c'est pas vrai.
Mais parce que hier, il doit faire des choix importants. Donc, bon, il a un joueur expulsé, il passe en 4-4-1. Et puis, à la pause, bah, il faut sortir Ignatius Ganago pour mettre Kalimuendo.
Ouais.
Alors après, on est dans le monde pro, Cédric Van Gotten. Donc, on va pas non plus tout le temps tout expliquer. Je pense pas qu'il a passé 5 minutes à dire à Ignatius. Alors, non. Tu sais, Ignatius, par rapport au profil du match, je pense que je vais mettre Arnaud. Il aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. Ou peut-être pas du tout, d'ailleurs.
Bah, il va certainement le faire, mais Ganago est peut-être aussi assez grand pour avoir compris que à 10 il fallait mettre peut-être un peu plus de mobilité devant et que
avoir un point d'appui en fait c'était la technique
et que Kalimuendo est peut-être un peu meilleur dans ce système dans cette façon de jouer là que Ganago ça retire pas ses valeurs, il est pas puni, il est sorti parce qu'il fallait changer quelque chose dans la façon de jouer et que Kalimuendo était mieux à même pour l'appliquer.
On est d'accord là, on n'a pas besoin Stéphane Bijard de parler aux deux joueurs.
Pas à ce moment-là, on s'en fout. À ce moment-là, si on prend la décision, boum, boum, de toute façon, on a 3 minutes pour la prendre. Donc,
exact.
Mais par contre, je pense que tout ça, c'est exactement ce que tu décris, c'est que ça se fait avant. À ce moment, dans la saison, il y a plein d'entretiens avant où chaque, pour moi, l'essentiel, c'est que chaque joueur puisse savoir quelle est sa réelle valeur ajoutée. Et savoir que tel autre c'est ça, tel autre c'est ça, tel autre c'est ça. Je fais référence à un truc tout bête. Alors, vous l'avez peut-être pas, vous en souvenez peut-être. Les yeux dans les bleus.
Oui.
La première séquence du premier film. Où vous avez le coach qui dit quoi ? Il explique à chaque joueur quel est son savoir, sa force, sa valeur ajoutée. Et toi, t'es pas Zizou, et toi, t'es pas machin, et toi, t'es... Pour montrer, et c'est avant que ça se prépare. Ouais. Ce qui fait que quand il prend sa décision après, boum, 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 s'il le prend, bah oui, c'est parce qu'il en a besoin à ce moment-là.
Et ça se prépare d'ailleurs tellement avant que ça tombe, c'était prévu de le faire en deuxième mi-temps, ils l'ont fait avant, au vu des circonstances du match.
Et je pense qu'il a aussi son importance dans ce que dégage Mathieu Rapèze, son équipe, après l'expulsion d'Aïdara. Parce que là, notamment jusqu'à la pause où c'est compliqué, on a sur le terrain des guerriers en fait.
Oui, c'est peut-être dommage d'ailleurs de devoir attendre une expulsion pour réveiller ces guerriers qu'on avait un peu perdus.
Le tac de Mathieu Rapèze.
Non mais c'est vrai.
Est-ce qu'il y a un carton jaune ou il y a un carton rouge?
C'est vrai.
Parce qu'il y a beaucoup d'engagement je trouve de Mathieu Rapèze.
Factuellement il a raison.
C'est pas toujours vrai, mais là, je pense que c'est un entraîneur quand même à l'image de son équipe. En tout cas, il a façonné un groupe qui joue vers l'avant et qui l'a montré que même à un de moins contre un des cadors du championnat, on ose faire un pressing que Nice a arrêté de faire d'ailleurs. Donc c'est peut-être aussi
Nice a aussi arrêté de jouer.
Double explication. Ouais, ouais. Mais oser aller de l'avant avec un Medina qui est impliqué sur les buts, qui ose monter, le défenseur central à un de moins, qui ose monter. Toutes les équipes n'auraient pas osé le faire.
Mais Nice perd le match en première mi-temps parce qu'il a quand même pas mal d'occasions qui concrétisent pas.
L'ECA fait 6 arrêts.
Voilà. Et puis voilà. Après c'est fini. Après c'est fini. En plus, on parle beaucoup de Kalimuendo. Mais
pourquoi c'est fini? Moi à la poche, je me dis pas que Lens va dominer le match.
Mais si, parce que en se réorganisant.
Toi, tu es dans cet état d'esprit là.
quand, non, mais dans un match, non, faut être clair en football. Dans un match qu'on concrétise pas, souvent,
c'est pas vrai, ça se finit mal. À la mi-temps.
Tu finis souvent par le PSG.
Non, pas à la mi-temps. 0-0, mais en deuxième mi-temps, ils reviennent pas à Lens avec la même façon de jouer, le même état d'esprit.
Ouais, ils ont une occasion dès la 46e.
Ouais. Bizarrement, on lâche un peu. On sait pas pourquoi, lâche un peu. Parce que ils jouent plus comme en première mi-temps. Ouais. J'allais dire, on parle beaucoup de Kalimuendo, mais Doucouré, la première fois, il est tout seul. Ça aussi, hein, tout seul au 18 mètres, il fait ce qu'il veut. La première fois, il fait la passe. La deuxième fois, pareil, tout seul au 18 mètres, mais il la frappe, il la met. Mais c'est pas normal à ce niveau-là, de la part de Nice, de laisser trop d'aisance à un joueur comme Doucouré au 18 mètres. C'est pas normal.
Et bah, pourtant, on parle du management qui a fonctionné de Francaise, mais Galtier, normalement, en tant que meneur d'hommes, c'est quand même le meilleur en France.
Oui, mais
le point d'interrogation, il est là. Mais là, on a traité de touriste à la fin du match.
Oui, hein. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il l'avait fait déjà dans le vestiaire? Mais alors, oui, c'est un super manager. Mais là, je pense qu'il a à sa disposition des joueurs qui manquent encore de maturité. Et peut-être qu'il a pas encore trouvé aussi le bon équilibre entre joueurs expérimentés et joueurs qui terminent leur formation, Stéphane Béjart.
Moi, je pense que il y a un truc qu'on ne saura jamais, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'un club. Ce qu'on voit, bah, malgré tout, les journalistes et machin, etc. Et moi, j'ai toujours, il y a 11 joueurs sur le terrain, il y a les 18, il y a l'entraîneur, mais il y a juste 150 à 200 personnes autour. Mmh. Et tout ça, ça a un impact énorme sur l'écosystème. C'est-à-dire que l'entraîneur aujourd'hui avec les joueurs, Galtier, il fait un super boulot. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème en ce moment? On n'en sait rien à Nice. Qu'est-ce qui s'est passé au PSG? Qu'est-ce qui s'est machin? Regardez, c'est pour ça qu'on ne peut pas enlever le contexte global de ce qui se passe à l'intérieur du terrain. Et ça, on ne sait pas. Donc, du coup, ça peut être... on ne sait pas ce qui se passe. En ce moment, on a un super écosystème à Lens, vraiment, parce que je connais les dirigeants, etc., etc. Bon, ça aide aussi, avec une équipe jeune, pas très... Enfin, à créer des belles performances. À l'inverse, vous avez des écosystèmes de merde avec des pognons de dingue, avec des joueurs de dingue, et on voit ce que ça fait, quoi.
Le président était là, il y a, dans les tribunes.
Au Gourlion, ouais.
Donc je sais pas. Moi, quand j'étais amateur, que je voyais que mon président était là.
Mais vous avez
ça Nice simulé ou pas?
Nice, ça va aussi moins bien depuis qu'ils sont qualifiés pour la finale de coupe. Ça joue comme alors, quoi ça joue
aussi, mentalement. Enfin, c'est...
Ah, c'est complexe. Piqué. C'est complexe. Stéphane Béjart est notre invité ce soir, auteur du roman De l'ombre à la lumière du Nord, préfacé par Gervais Martel aux éditions J'ai d'encre. C'est un roman. Mais c'est aussi l'histoire des coulisses de cette saison magique, la plus belle saison du Racing Club de Lens, puisque c'est la saison du titre en 97-98. Je vous le conseille, vous découvrirez plein de petites histoires croustillantes sur l'envers du décor. On parle ce soir de ces coulisses du football. On est ensemble dans Tribune Nord jusqu'à 20h et on va parler des coulisses d'une autre course, d'un autre moment du sport mythique, Paris-Roubaix.
Tribune Nord. Toute l'actualité du LOSC en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais.
Et on accueille pour parler de Paris-Roubaix Yann Duploy, le patron des sports à la Voix du Nord. Salut Yann.
Salut tout le monde.
Et comme tous les lundis, l'instant Voix des Sports, version papier, version numérique, on l'a tous lu autour de la table, bien entendu. Et vous avez tous votre magazine incontournable pour ce week-end. Paris-Roubaix, c'est dimanche. Ce sera à vivre avec la Voix du Nord, avec France Bleu Nord. Numéro spécial Paris-Roubaix. Déjà, superbe photo d'intro. Hein.
Ouais, super photo avec l'un des gros favoris de dimanche, Mathieu Van Der Poel, ouais, le petit-fils de Poupou. Ouais. Il sera là, il sera rendez-vous comme plein d'autres, hein, comme notre nordiste, dont je ne citerai pas le nom cette année, parce que ça va porter la poisse l'année dernière.
Ah, vous ne citez pas le nom des joueurs, comme Jocelyn Gourvennec avec Hatem Ben Arfa. Vous, c'est pour ne pas leur porter la poisse. Bon, je vais le donner.
C'est pour la poisse. Moi, c'est plutôt pour la poisse, ouais.
Florian Sénéchal, bon, qui ne vit pas un début de saison évident, un peu compliqué pour lui, Mathieu Rapèze. Hein.
Ouais, il n'était pas dans les bons coups. Son équipe Quick-Step marche moins bien, puis quelques petits problèmes d'estomac après chaque course, donc de changer de régime.
Et Yann,
c'est pour mieux débarquer sur Paris-Roubaix, ça.
Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve de particulier dans ce numéro d'incontournable?
Alors, comme d'habitude, les favoris, la boue, c'est-à-dire peut-être un peu moins de boue quand même. Hein. Ouais. Les favoris, donc Florence Deschal, évidemment, on a suivi. Les filles de Cofidis qui découvrent la course pour la première fois cette année, puisque c'est une nouvelle équipe qui a été lancée cette saison et c'est très bien pour le cyclisme français et nordiste. Donc, on aura une équipe nordiste chez les filles, sur la route, chez les garçons aussi, mais Cofidis, c'est un monument depuis longtemps. Donc c'est une nouveauté, les filles de Cofidis. Et puis on a une double page d'infographie hyper intéressante, très bien faite, sur toute l'histoire du Paris-Roubaix, les nationalités, les vainqueurs, l'âge, la taille, la vitesse, tout ça, c'est à découvrir dans le magazine. Et c'est hyper, hyper incontournable pour la grande course de dimanche. Et pour la plus belle semaine de l'année.
Voilà, pour les amoureux du vélo, les amoureux de Paris-Roubaix, et pour nous, les journalistes, qui doivent aussi préparer leur sujet, Mathieu.
Hein, oui, hein, à suivre toutes les semaines aussi sur France 3, hein, des reportages tous les soirs.
Tous les soirs, quelle heure ?
Demain, ce sera l'omelette de Françoise.
Ok.
Je ne sais pas si vous connaissez, non, mais vous verrez. Oui. Bah, regardez le journal à 19h demain. Les filles de Cofidis, Florent Sénéchal, et puis les courses en direct sur France 3.
Est-ce
les filles,
que quelqu'un
samedi
doit faire sa promo pour autre chose ?
Juste pour savoir, c'est quoi la tendance météo de Paris-Roubaix, parce que ça influence tellement la course.
Ah, mais moi, je suis pas monsieur météo.
Ouais,
chaud et sec.
Chaud et sec. Comme aujourd'hui,
poussière.
Moi, si je pouvais faire quelques affaires, parce que je suis aussi agent dans le vélo.
Ah, vous cherchez un joueur,
mais non, mais
une pépite.
Puisque là, le chef de la Voie des Sports a le portrait robot de l'âge et mensuration et tout, faudrait me donner le portrait robot des vainqueurs de Paris-Roubaix depuis tout le début de la course pour que je cherche un coureur qui coche toutes les cases.
Et ben, Cédric, un petit indice, c'est dans le magazine.
Wow. Mais ce matin, j'ai été fidèle à la Voie du Nord, mais un autre journal de la Voie du Nord, parce qu'il y avait des analyses qui m'intéressaient.
Ah oui, d'accord, je vois lequel.
Merci Yann Duploy et à la semaine prochaine pour parler du derby.
À la semaine prochaine.
Salut,
avec plaisir.
Yann Duploy, le patron des sports à la Voie du Nord. Et donc pour ce numéro de la Voie des Sports à télécharger en version numérique et à acheter en version papier, n'hésitez pas, c'est un incontournable. C'est notre Bible toutes les semaines. Allez, on va parler du LOSC. Alors, retour sur les faits marquants de ce match. Avant de parler de cette institution avec cette question, voilà, on n'entend pas Olivier Létang, il est très très silencieux. Je rappelle qu'autour de la table ce soir sont réunis Stéphane Bijard, Cédric Van Goten et Mathieu Rapèze. Où est l'institution dans ce dossier Ben Arfa? Si vous avez décroché ces derniers jours, petit rappel des faits. Prise de bec dans le vestiaire entre Diallo et Ben Arfa. Gourvennec tente d'intervenir, Ben Arfa l'insulte. Un dirigeant considère qu'il ne représente pas les valeurs du club. Le joueur est resté chez lui, il n'a pas été convié à l'entraînement. Et Gourvennec, vendredi, a été le premier à parler en conférence de presse.
Un joueur a un comportement inapproprié. Le président a une règle. On ne touche pas au club, on ne touche pas à l'équipe et on ne touche pas à l'entraîneur. Parce qu'il n'y a rien ni personne qui est au-dessus du LOSC.
Voilà. Et dans cette conférence de presse, où il n'a fait qu'une déclaration sur le sujet, il ne répondait pas aux questions sur Ben Arfa, il a quand même accepté de répondre à une question sur ce milieu du foot, où il semble être un peu un ovni, où on se demande, je lui posais la question, si voilà, dans ce monde de requins, Jocelyn Gourvennec est fait pour y trouver sa place. Écoutez ce qu'il répond sur le monde du foot.
Quand on est dans un corps de métier où il peut y avoir des coups tordus, où il peut y avoir des choses peu appréciables, peu admissibles, pas parce qu'il y a des gens tordus qu'il faut être tordu.
Voilà. Et Ben Arfa a pris la déclaration pour lui. Il a considéré que Gourvennec le traitait de tordu. Et il a répondu, le tordu c'est toi et ton président Olivier Létang. Et un membre du staff nous racontait en off que le joueur s'était totalement décrédibilisé. Voilà pour le rappel des faits si vous débarquiez. Dans cette histoire, finalement, celui qui a représenté l'institution, qui a parlé face aux médias, c'est Jocelyn Gourvennec. Alors, le président a été rattrapé par le Covid, Olivier Létang, Cédric Van Goten. Est-ce que vous comprenez qu'Olivier Létang laisse la parole à Jocelyn Gourvennec et qu'on ne l'entende pas dans les médias pour défendre l'institution, défendre son entraîneur?
Oui et non. Oui, dans le sens où, mais tout est lié dans l'affaire. Hein. Il faut prendre déjà, mois de janvier, l'arrivée de Ben Arfa. Est-ce que Gourvennec le voulait? Est-ce que Gourvennec a eu son mot à dire ou est-ce qu'il a été imposé à Gourvennec? Et c'est là où on a tout le sens de ce qui se déroule derrière. Parce que s'il a été imposé à Gourvennec, aujourd'hui, Olivier Létang, il est un peu mal placé pour intervenir. Mais d'un autre côté, je le comprends, Olivier Létang, de ne pas intervenir. Parce que là, on n'est plus dans le football. On rentre dans une sphère juridique.
Ah, mais c'est Gourvennec qui intervient.
On rentre dans une sphère juridique et il n'a pas intérêt à mettre de l'huile sur le feu, à faire des déclarations sur lesquelles le joueur pourrait éventuellement, si ça se passe mal, se servir.
Oui, mais
ça n'arrivera pas.
Ce qu'a dit Gourvennec aurait pu être dit dans la bouche d'Olivier Létang, hein, tu rappelles, non, il aurait pu venir.
Je crois qu'un certain Sylvain Charlet a parlé de gentleman en parlant de Jocelyn Gourvennec. Non, ouais. Et je trouve qu'on l'envoie comme ça au front.
Et non.
5-6 jours après, je crois. Une semaine après, ou c'est vendredi.
Je ne suis pas d'accord parce que dans l'intervention de Gourvennec, il dit... Le président a une ligne de conduite.
Oui, bien
on
sûr.
On touche pas à l'institution et on touche pas à l'entraîneur. Mais ça veut dire que ça renforce Gourvennec.
Mais ce qu'on dit là, c'est que le président, il aurait pu venir parler à la place de Gourvennec, ne serait-ce que pour faire une déclaration de deux minutes.
Ben non, parce que ça aurait donné encore plus d'importance au dérapage de Ben Arfa.
Mais c'est important, L'inscription est importante.
Le LOSC en sort grandi. Ils disent que c'est Ben Arfa qui fait n'importe quoi. On l'accable et puis c'est bon. On a plein de manières de communiquer. Il n'était pas obligé de venir en conf de presse et affronter les journalistes. Il pouvait juste faire un communiqué. On l'aurait tous relayé parce que personne n'a parlé. Donc
c'est pour ça qu'il est en train de travailler sur la situation. Et quand tout sera carré, il communiquera. Mais quand tout sera carré, juridiquement.
Stéphane.
Oui. Alors moi, j'ai pas tous les faits, j'ai pas suivi plus que ça. Par contre, il y a une chose dont je suis persuadé.
Pas trop Lille, plutôt Lens.
Ah non, pas du tout. Non, j'adore le sport en général. Et moi, ce qui m'intéresse justement, parce que là, on est vraiment pour moi sur une question de management.
Ben oui, exactement.
Ça n'a rien à voir avec le sport, etc. Et il y a une chose dont je suis sûr, parce que c'est vrai ça dans une équipe de sport, mais c'est une équipe de n'importe quelle entreprise, une rédaction, une entreprise industrielle, un grand magasin, peu importe. S'il n'y a pas la colonne vertébrale, ça veut dire les actionnaires, le dirigeant, l'entraîneur opérationnel, directeur de prod et les joueurs. Enfin, si cette colonne vertébrale, elle n'est pas fluide, ça peut péter de partout. Pourquoi je dis ça? Parce que sur des situations comme ça, où il y a un feu qui se passe, la première chose à faire, et nous à l'époque, je me souviens qu'on en a fait, et c'est que je le raconte dans le livre plusieurs fois, par rapport à des événements qui vont se passer, réunion d'urgence entre Gervais, moi, machin, etc. Et on se fait à 3-4 et on dit qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'ensemble on va communiquer à l'environnement
média? Mais c'est ce qui a été fait, c'est ce que le club a fait. Le club a maîtrisé sa communication. Mais moi personnellement, j'aurais voulu entendre Olivier Létang à la place de Jocelyn Gourvennec pour représenter l'institution.
Je m'en fous. À la limite, si c'est la voix du club au sens large du terme, pour moi que ce soit l'un ou l'autre, machin, peu importe. À la limite, peut-être que l'autre il reviendra après. J'en sais rien. Parce qu'en plus, ça va tellement vite. Enfin, c'est parce que j'imagine bien que l'interview, elle s'est faite à quel moment? C'est à la sortie d'un match, un truc, un ceci, cela.
Quelle interview?
Je sais pas. Mais ce que sort à un moment Jocelyn Gourvennec, il le sort dans quel contexte?
C'est six jours après.
Ouais, six jours après, etc. Bon. Alors peut-être qu'ils auraient dû. Par contre, eux, et c'est là où peut-être l'erreur qu'ils ont faite de manière globale, c'est de dire comment nous, on reprend le flambeau et comment on va communiquer sur cette affaire, nous. Et non pas attendre les questions. Enfin, c'est pour ça qu'il y a vraiment toujours encore une fois, je reviens au contexte.
Mathieu, avant d'accueillir Jean-Luc au standard.
Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que visiblement, en interne, ça s'est plutôt bien réglé. Puisque je pense qu'il y avait
donc, ils auraient dû intervenir plus tôt.
Unanimité contre Ben Arfa. Donc, il n'y avait pas un énorme débat. Après, à leur décharge, c'est ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a une procédure qui est enclenchée. Alors, on ne sait pas si c'est une procédure licenciement, chaque mot est pesé et que ça pourrait se retourner à l'encontre du LOSC.
Mais Gourvennec a parlé.
Mais c'était la stratégie.
Oui, mais moi, je dis que j'aurais aimé entendre le président.
Et vous parlez
après, je n'oublie pas qu'après les incidents du derby, Olivier Létang aussi a adopté cette stratégie. Et elle est respectable, elle est tout à fait respectable.
Pourtant, Olivier Létang, une de ses premières mesures, c'était de en arrivant au LOSC à Luchin, de mettre des panneaux fierté, institution.
Mais oui.
Comme quoi l'institution était le plus important. Là, il est quand même bien discret. Mais quand il y a un problème, le président, il doit être là.
Je vais pas prendre de temps, Jean-Luc, mais. Sur le dossier du derby, il a plutôt bien géré Olivier Létang, puisque finalement le LOSC n'a pas été si sanctionné que ça par rapport à d'autres clubs cette saison.
À aucun moment il a fustigé la présence de certains individus qui n'avaient rien à faire dans le parquage lillois. Moi j'aurais aimé l'entendre là-dessus quand même. Au bout d'un moment. Alors après il a réglé ça en interne avec les groupes de supporters. Mais il y a quand même parfois des messages à passer.
Ben peut-être qu'il le fait, mais qu'il le fait pas publiquement.
Qu'en pense Jean-Luc? Oui, mais il y a aussi un public qui est là. Mais il y a un public qui existe. Bonsoir Jean-Luc.
Oui, bonsoir.
Bon, est-ce que le silence d'Olivier Létang vous surprend?
C'est vrai que pour un président, je pense que ça aurait été judicieux de quand même prendre la parole, même si c'était bref, au moins pour montrer sa présence. Là, d'avoir laissé Jocelyn Gourvennec. Bon, après, le problème, il a débuté plutôt entre Ben Arfa et Gourvennec, donc ça peut aussi se concevoir comme ça. Mais après, de toute façon, c'est dans l'absolu, c'est une histoire regrettable pour le LOSC.
C'est clair.
On avait pris un joueur en joker pour qu'il nous apporte quelque chose, et le résultat, c'est qu'il nous a rien apporté, hormis
des problèmes.
Des problèmes, quoi. Donc, bon, c'était voilà, c'était un risque hein, parce que c'était quand même pas la première fois que Ben Arfa avait des problèmes dans les clubs qu'il a fréquenté. Donc voilà, on a risqué et puis on a perdu hein. Sur ce pari-là, on a perdu. C'est dommage parce que mais voilà, mais bon, après Ben Arfa, ouais, je pense que c'est pas bah, comme je le disais hein, c'est il y a un passif hein, il y a un passé qui parle contre lui.
Eh oui, malheureusement, on avait envie d'y croire parce qu'à Nice, ça s'était bien passé avec l'actuel.
Un surdoué du football, mais il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Pour, bah c'est voilà, c'est évident puisque sinon, je pense qu'il aurait fait une autre carrière que celle qu'il a. C'est ce qu'il a réalisé.
Mathieu,
il y a Ben Arfa qui a gagné un abonné, c'est-à-dire moi sur Instagram. Et hier, il regardait le match et il a félicité Zegrova pour son but.
Ouais.
Et il a mis allez le LOSC.
Ah mais c'est bien.
Il sera peut-être là le jour du derby.
Il n'a pas tout perdu. Il reste supporter du LOSC. Cédric, pour
vous savez, dans l'histoire, le président Létan n'est pas non plus aidé par Sylvain Armand parce que ça aurait pu être son job de coordinateur sportif d'intervenir. Mais comme il s'est discrédité au cours des dernières semaines, même là, on n'a plus cette carte-là à battre.
Alors, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans la colonne vertébrale. Là, on parle du président, on parle de l'entraîneur, on ne parle pas de la cheville ouvrière qui est au milieu quand même.
C'est vrai. Merci Jean-Luc d'être passé.
Bah, je vous en prie, bonne soirée à vous.
À très bientôt sur l'antenne de France Bleu Nord. Et allez LOSC pour samedi, en effet. Chaud derby et allez le Racing Club de Lens également, bien entendu, parce que nous, on est obligé d'équilibrer.
Dépend de parole.
Mathieu Rapèze me regarde en disant, ah donc, tu es supporter du LOSC.
J'ai lâché un aller Boulogne la semaine dernière, donc vous pouvez.
Et Boulogne, défaite ce week-end.
Défaite, ouais.
Fin de la remontada. À Bourg-en-Bresse, Allez, on est pris par le temps, on parle Ligue 2.
Tribune Nord, toute l'actualité de la Ligue 2 en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais.
Bon, rapidement, on va en parler en deux minutes, mais c'est compliqué pour nos deux clubs. Encore deux défaites, Valenciennes et Dunkerque. Quatrième défaite pour Dunkerque 2-1 sur la pelouse du Havre. Et pourtant, c'est un match intéressant avec pas mal d'opportunités. Valenciennes, seulement 3 buts inscrits en 5 matchs et encore une défaite face à Auxerre. Une attaque très prévisible. Bon, bah, 10 semaines après semaine, ça se complique. Ça va jouer jusqu'au bout. Hein. J'imagine le match avec Fabien Mercadal, l'ancien entraîneur de Dunkerque, sur le banc de Quevilly lors de la dernière journée pour un match au couteau.
Non, mais Dunkerque, c'est dommage puisqu'ils reviennent au score. Wow.
Ils font un bon match.
Et Valenciennes, alors là, c'est complètement incompréhensible. Ils veulent faire une défense de zone, mais à la limite, un peu trop de passivité chacun à l'intérieur de sa zone. Et puis, alors là, vous avez les deux anciens Valenciennois qui sont au cerf. Un est Pelnard, un tire le corner et l'autre met la tête. Voilà.
Ça va vraiment être compliqué. J'ai l'impression que vraiment on va en perdre un sur les deux, hein. Mathieu.
Ouais, il y a un risque statistique effectivement avec surtout Dunkerque qui enchaîne
30 points avant dernier.
Voilà, c'est jamais très bon. Après on se répète semaine après semaine. Je pense que finalement intrinsèquement les effectifs sont peut-être limités. On parle de ce supplément d'âme, d'être prêt à jouer le maintien pour Dunkerque, espérons que ça fasse effet. Mais
Valenciennes donc 15e avec 36 points et le week-end prochain il y aura Valenciennes-Le Havre et Dunkerque va affronter Grenoble qui est juste devant, donc c'est vraiment une opportunité déjà de revenir à hauteur de Grenoble qui a 3 points d'avance et qui est pour l'instant barragiste. La Ligue 2, c'est également à suivre sur antenne de France Bleu Nord.
Toute l'actualité du sport jusqu'à 20h sur France Bleu et France 3, Tribune Nord.
Alors, on va accueillir un supporter lensois Jordan dans quelques instants puisqu'on a un derby qui se prépare. Interdiction de déplacement des supporters lensois à Lille, mais de nombreux supporters lensois ont réussi à acheter des places via la billetterie du LOSC et via d'autres moyens parallèles. Et donc, on aura pas mal de lensois incognito un peu partout dans le stade et ça pourrait poser problème. Salut Jordan.
Salut Sylvain.
Alors, tu seras au stade, toi, samedi soir, supporter lensois, hein?
C'est ça.
D'accord. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as réussi à obtenir des billets pour le match?
Oui, bien sûr. Alors, tout simplement, le LOSC. Alors, j'habite la métropole lilloise. Le LOSC a mis en place une offre promotionnelle un petit peu pour les personnes qui habitent la région. Et du coup, j'ai vu cette offre-là directement avec un pack Lille-Lens et Lille-Monaco. Donc, j'ai également acheté des places pour Lille-Monaco.
Ok, donc ça ne te fait pas peur là d'aller toi en tant que supporter lensois, même incognito, à Pierre-Mauroy samedi soir?
Non, en tant qu'incognito, il n'y a pas de souci. Il suffira juste de jouer le jeu entre guillemets et de ne pas provoquer l'adversaire pour qu'il n'y ait aucun débordement.
Donc ça veut dire 6 buts lensois, tu ne te lèveras pas, tu ne fêteras pas le but.
je prendrai mon ami qui vient avec moi dans les bras de tristesse, on va dire.
Bon, sincèrement, il n'y a pas de parquage, c'est Rick Van Gotten. Moi, ça me fait peur. De savoir qu'il y aura, a priori, des Lensois, parce que moi, j'en ai eu plusieurs dans la semaine, et si j'en ai eu plusieurs, ça veut dire qu'il y en aura beaucoup au stade, parce que forcément, à l'échelle des sondages. Évident. Voilà. Moi, sincèrement, ça me fait peur.
J'ai connu ça, je me rappelle un match fin des années 90, début des années 2000, où pareil, il y avait des Lensois un peu dans toutes les tribunes, et il y a eu un but de Lens, et c'est là où on a découvert qu'en fait, de ci, de là, des gens se levaient, ouvraient leurs blousons, parce qu'en dessous, ils avaient... Bon, mais si... bon, plus sérieusement, on en revient au problème du match aller. Moi, je pense que dans les clubs, il n'y a pas assez de contrôle à qui on vend les billets. C'est malheureux qu'il n'y ait pas de parcage, clairement, parce que les supporters de Lens devraient avoir le droit de venir. Mais c'est trop dangereux de ne pas contrôler la vente des billets.
Mais comment vous voulez contrôler, là?
Mais
l'identité, l'identité on n'est pas, c'est pas écrit sur sa carte d'identité qui on supporte.
Donc il faut l'identité, la carte de supporter. Oui, Jordan,
c'est impossible.
Si je peux me permettre.
Oui, vas-y, Jordan.
Lens le fait très bien. Ils vendent uniquement les places aux abonnés. Et les abonnés prennent des places également pour leurs amis lensois. Et comme ça, il y a
après,
pas,
l'autre voilà, solution, c'est d'ouvrir. Ça aurait été d'ouvrir le parcage. Un parcage, oui, c'est la jungle. Mais si ça existe, c'est bien pour mettre tous les ennemis potentiels dans un même coin, les cadenasser. Là, tous les Lensois sympathisants auraient pu se dire on va dans le parcage, on fait la fête ensemble et on croisera pas un Lillois. Là, on va avoir des petits groupes de 2-3, ça peut partir en vrille, pour rien.
Mais c'est déjà dur à contrôler un parcage, on l'a vu au match aller, puisque y compris dans un parcage, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément voulus. Alors là, imaginez des groupes de 2-3 au milieu de plusieurs dizaines de supporters, une action un peu chaude, et c'est normal, on supporte une équipe, on est content.
Je
ne
suis pas aussi pessimiste que vous, parce que je trouve qu'il y a le phénomène de groupe qui joue quand même, parce que quand on est dans un parcage, on est en équipe, on est en bande, on est en machin, il y a quand même une simulation qui se fait très fort, hein, en plus c'est des copes généralement, c'est des quartés, tandis que là, se pointer à un match où on est 2-3, je ne pense pas que le mec il va les provoquer s'il en a 15 autour, ou alors il est venu exprès.
Mais le problème,
c'est pas la même chose. Pense que le bon père de famille peut dégoupiller aussi, c'est ça qui me fait
le problème, il n'est pas les 2-3, le problème il est la bande qui est autour des 2-3, c'est là le problème, c'est danger de la dissémination des supporters.
Oui, mais comme le disait Jordan, c'est à ce moment-là qu'il faut être suffisamment intelligent. On a des matchs.
C'est bien ça le problème.
On risque un petit peu quelque chose en
voilà, c'est ça. Si tu y vas.
On va pas commencer à faire les guignols, à provoquer l'adversaire s'il y a un but de Lens.
Mais Jordan, toi, tu sembles être quelqu'un de posé. Tu vois ce que je veux dire? Réfléchis.
C'est à 21h, les gens auront pu boire un coup avant, c'est pas un match à 13h, c'est bon. Tout y est, moi. Mais bon,
sincèrement,
me tromper, hein,
On va croiser les doigts, peut-être que des décisions seront prises dans la semaine pour faire évoluer les choses. En tout cas, Jordan, passe un bon match samedi soir, on espère que tout se passe bien. Et on espère vivre un très très beau derby et oublier ce qui s'est passé, notamment en début de saison. On avait aimé le derby en Coupe de France, mais il y avait cette jauge. Salut Jordan, et à samedi soir.
Salut, à samedi soir.
On se passera un petit coup de fil dans la soirée pour prendre des nouvelles pendant ce derby retour. Donc voilà, ce derby, on va en parler forcément toute la semaine sur l'antenne de France Bleu Nord. Ils sont réunis ce soir autour de la table. Stéphane Bijard, je vous rappelle, il faut absolument vous procurer son livre De l'ombre à la lumière du Nord aux éditions J'ai d'encre, le roman qui nous raconte ses confidences de l'époque Daniel Leclerc avec l'année du titre en 97-98. Mathieu Rapez et Cédric Van Gotten sont également là.
Tribune Nord. Le tour du net.
Alors, le tour du net, il est consacré à un joueur lillois qui brille à l'étranger. C'est Youssouf Yazici. J'avais regardé un petit peu ses statistiques avant le week-end dernier. Eh bien, il a débuté tous les matchs en championnat avec son club. 8 buts en 7 matchs, 3 pénaltys. Il joue dans une position axiale. Première défaite ce week-end en championnat. Et on commence vraiment à en parler sur les réseaux. Xavier, par exemple, qui nous dit « les prouesses du prince Youssouf ». C'est un supporter du CSKA français. Il ne s'est pas juste relancé sportivement. Il a pris les clés du club et de la ville. Le petit Lillois sur Twitter, qui est un compte de référence sur le LOSC, évoque pourquoi pas l'option d'achat qui pourrait être levée, mais parle aussi des difficultés au vu du contexte actuel pour imaginer que le club puisse acheter cette option pour faire signer le Lillois. C'est une belle histoire pour Youssouf Yazici. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer au cœur d'un projet futur à Lille? Parce que là, il a un rôle quasiment de meneur de jeu, de deuxième attaquant axial, Mathieu Rapez.
Ouais, il a eu le temps quand même de faire ses preuves à Lille. Après, il avait bien débuté à Lille, hein, les triplés contre Prague, tout ça. Donc,
il jouait dans un rôle axial à côté de Jonathan David.
Ouais, non, après la saison prochaine, je pense qu'il y aura beaucoup de changements au LOSC, donc pourquoi pas, mais il y aura peut-être une fin de cycle côté turc à Lille, hein. Il y a Bourak aussi, donc s'il revient, il sera dans l'effectif, il fera peut-être la prépa d'été.
Est-ce qu'on est en train de se dire que le championnat russe ne vaut pas du tout le championnat français?
La question. Ça c'est une question. Excusez-moi, mais ça m'énerve.
Je vais vous dire,
parce que il y a tellement de monde qui critique le championnat français, alors que très honnêtement, mis à part peut-être les Anglais, mais très honnêtement, je pense qu'on n'a rien envie à certains autres championnats.
Bien sûr,
parce que en Espagne, il y a quoi, 2-3 gros clubs. Voilà. En Allemagne, vous avez que le Bayern et Dortmund. Après, c'est le désert. Bon, en Italie, si, vous avez aussi 4 équipes. Voilà. Vous êtes dans les autres championnats, vous avez peut-être un peu plus de densité en haut. Mais autrement, au niveau général, c'est pas plus extraordinaire. Mis à part en Angleterre, c'est pas plus extraordinaire qu'en France. Hein. Faut arrêter d'être abougri et à chaque fois de se dévaloriser. Hein, je vous le dis. Hein.
On en reste là parce qu'il faut qu'on parle du livre de Stéphane. Hop là.
Voilà.
Toute l'actualité du sport jusqu'à 20h sur France Bleu et France 3. Tribune Nord.
Alors, on parle de ce livre, de l'ombre à la lumière du Nord, préfacé par Gervais Martel, qui a absorbé ce livre en quelques heures, le livre de Stéphane Bijard, qui nous replonge dans la saison 97-98 du Racing Club de Lens. J'allais dire la saison du LOSC. À l'origine, vous n'êtes pas un supporter du Racing Club de Lens.
Pas du tout.
Dunkerquois, amoureux de voile. C'est fou,
de
ça.
De voile et de judo et de handball, parce que c'est les sports que j'ai pratiqués, mais... Football, pas du tout. La première fois que j'ai mis les pieds dans un stade, c'était à Bollard.
Et comment vous retrouvez à rencontrer Daniel Leclerc pour finalement avoir cette inspiration des années plus tard?
Déjà, je rencontre avant Gervais, quand même. Je rencontre Gervais, ça doit durer une heure et ça dure 6 heures. Une rencontre incroyable. Et puis au bout de 5 heures, il est 17h30, 18h, je suis dans le bureau. Entre-temps, on a été chercher sa fille avec la Jaguar, machin. Enfin, et puis à un moment donné, j'ai dit, mais vous savez que si moi, je peux vous aider à faire quelque chose, mais il faut que je rencontre votre entraîneur. Et il me dit, vous connaissez votre entraîneur? L'entraîneur? Je dis non. Il me dit, Daniel Leclerc. Je sais pas qui c'est. Il me dit, quoi? Vous connaissez pas Daniel Leclerc? Je dis non, je sais pas qui c'est. Attendez, vous êtes pas... non, je dis rien.
Bien ça.
Voilà. Et je pense que ça a joué beaucoup aussi pour la suite, parce que j'étais pas supporter, j'étais pas
totalement extérieur, neutre.
En fait. Et là, le courage managérial de Gervais, parce que j'ai rencontré plein d'autres dirigeants derrière, qui a décroché son téléphone, qui a appelé Daniel, et Daniel est arrivé dans les 10 minutes qui venaient. Parce qu'il y en a plein qui vont pas aller voir l'entraîneur en disant, tiens, il faut que tu rencontres un mec, quoi. Mm-hmm. Et là, la rencontre extraordinaire, Daniel Leclerc arrive au Galibo à l'époque. Le bureau
il vous prend dans ses bras, il est souriant.
C'est à peu près ça l'image. Le bureau de Gervais faisait, on va dire 60 mètres carrés. C'était un grand, grand bureau. On est au fond de la salle. L'autre, il ouvre la porte. Il dit bonjour. Il reste à la porte. Donc, il y a quand même un écart de 7-8 mètres entre nous. Quoi. Il dit, c'est pourquoi? Et là, de loin, sans bouger, il dit, Gervais dit, tu vois, il faudrait que tu rencontres ce mec-là parce qu'on a peut-être des trucs à faire ensemble. Voilà. Et avec son micro comme ça, il fait, ouais. Demain, 11h30 après l'entraînement. C'est bon? Allez, au revoir. Et il se casse. Ça a duré 2 minutes, quoi. Et là, je me tourne vers Gervais, je lui fais ça va être chaud, quand même. Et il dit attends, mais c'est génial, il accepte de te voir. Mais voilà. Et c'était le premier. Mais là, j'ai dit c'est quoi ce mec, quoi.
Et donc voilà, vous racontez au fil de ce livre cette relation qui se noue avec Daniel Leclerc.
Et ça a commencé comme ça. Le lendemain, ça dure 6 heures quand même.
Mais un jour, il s'est confié vraiment à vous, Daniel?
Tout est dedans. Il faut rentrer dedans parce que vraiment, il y a eu des moments.
Une histoire de confidence, une confidence, il nous reste une trente.
La confidence, c'est au moment où il m'envoie chier en me disant de toute façon, je me casse, j'en peux plus et on n'arrivera pas. Mmh. Alors qu'on est vers la fin du championnat, on va être champion.
Il voulait se casser.
Ah oui, mais vous verrez.
Mais c'est développé un peu quand même.
Mais non, parce que il y avait un contexte. Le contexte en plus, tiens, c'est à cause d'un article qui est paru dans But. On joue à l'extérieur, on gagne. Enfin, c'est un contexte un peu compliqué. Et il y a un article qui passe dans But, mais un entrefilet de 2 lignes et demie où le mec dit je suis en contact avec Gervais Martel pour un futur entraîneur de Lens à cause d'un agent de merde, quoi. Et alors, forcément, Daniel, ouais, t'as vu ce truc-là, c'est quoi ce bordel, etc.
Je dis, c'est quoi ça? Et là, enfin, il va se passer. Gervais, lui, machin, il est presque barré. Hein. C'est une catastrophe humaine, quoi. Et puis moi, je vais être burel d'huile dans tout ça. Enfin, et puis le lendemain, ça y est, c'est passé. Mais sur le coup, c'est un truc de dingue.
Mais le titre, c'est peut-être grâce à toi, finalement.
Eh ben, si tu lis le livre, tu te rendras compte qu'en tout cas, ne serait-ce que la dernière page écrite par Daniel à dédicace, tu peux finir là-dessus. Ce sera, bah tiens, je vais vous la lire.
Parce que
ce sera la plus belle conclusion de la dernière page que j'ai écrite dans le livre. C'est une dédicace écrite par Gervais Martin, écrite par Daniel Leclerc. Il dit ça. Voilà. À Stéphane, je suis passé par une époque formidable en jouant et j'ai vécu une aventure magnifique et rare. En finalité, tu es mon druide. Ta potion a fait sur moi des miracles. Quel changement dans mon approche et mes relations avec les gens, favorisant mon épanouissement. L'étoile était présente quand elle m'a fait te rencontrer. Je te dois énormément. Mille merci à toi, tu me manques. Affectueusement, Daniel. Quand vous connaissez le bonhomme, c'était rare qu'il dise ce genre de choses.
Le voilà, le livre. Vous le voulez? Vous voulez le bouquin? Je vous le prête parce que
j'ai ma dédicace. C'est pour ça que je ne vais pas le prendre.
C'est bon, il est là, voilà.
Je vais leur en offrir un quand même, pour ce bon moment.
Merci Stéphane, vous revenez quand vous voulez.
Dès que tu m'invites, j'arrive.
Eh ben c'est fait. Mathieu Rappez, on va coordonner nos calendriers. Mathieu Rappez, Cédric Bergotel, merci.
À bientôt.
Bonne soirée à vous. Et puis on reparlera ballon très très vite sur l'antenne de France Bleu Nord. C'est un régal comme tous les lundis. Salut à tous.
Merci Sylvain.
Tribune Nord, c'est aussi en vidéo sur les Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais.